Et vous écoutez France Culture. Croire aux fauves, c'est croire en ce qui résiste. Nastassia Martin. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Un mauvais genre au ton et au cri fauve ce soir, puisqu'en partenariat avec la revue Bibaud et sa rédactrice en chef Anne de Malray, nous en évoquerons l'univers lexical, zoologique, érotique et panique allant du goupil médiéval au lion et tigre bonasse mais vorace, mis en scène par Noël Marchal, non Rohard, en passant par Balzac, Jacques Tourneur et Brecht Evans. Les fauves sont lâchés. Bienvenue dans Mauvais genre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre qui ce soir entre dans la cage, descend dans la fosse et vous fera tous les honneurs possibles de la grande ménagerie. Nous parlerons en effet des fauves et ce avec Anne de Malray. Bonsoir.
Bonsoir.
Anne de Malray, eh bien vous êtes la rédactrice en chef d'une revue qu'on aime beaucoup. À mauvais genre, qui est la revue Bibaud. Moi, j'avais eu le plaisir d'évoquer en chronique dans une autre émission, numéro sur les ours. Et ce soir, c'est un partenariat France Culture. Nous parlerons de fauves, parce qu'il n'y a pas de S.
De fauves, des fauves, eh oui. Il n'y a pas de S. On a hésité, à vrai dire, de savoir si on mettait un S ou pas de S à fauves. Et en fait, on s'est dit que les fauves, ce sont les animaux, les félins, voire les ours ou les loups. Et que fauve, en fait, ce mot qui, du coup, là, est plutôt pris comme adjectif. En fait, c'est un mot qui est chargé de tout un imaginaire qui est à la frontière entre humain et animal. Et c'est ça qui nous intéresse.
C'est cette frontière qui vous intéressait.
Voilà.
Très bien, ben écoutez, ce soir donc, les fauves à l'honneur avec Céline Duchesnay.
Bonsoir.
Fauve
François.
Célèbre, chasseresse célèbre.
Bon, ben, seulement la nuit, bien sûr,
seulement
comme
la
tout
nuit,
fauve.
Jour, redevient quelqu'un de tout à fait policé. Et Antoine Guillot, bonsoir. Et
bonsoir François.
Antoine Guillot, évidemment, qui s'est en charge de deux dossiers pointus dans cette émission. Le premier sur Rohard, le film de Noël Marchand. On vous en dit pas plus, mais vous allez voir, c'est un film incontournable sur la question. Et puis on reparlera de Panthère, c'est un plaisir, de Brecht Evans, qui sort en édition, alors collector, complété.
Augmenté de quelques pages, mais qui change beaucoup.
Alors avant de faire l'honneur à la Panthère, vous allez faire honneur à l'ACBD, à son lauréat, Antoine.
L'Association des critiques et journalistes de bande dessinée qui a décerné jeudi son Grand Prix de la critique 2020, puisqu'il sera remis à Angoulême à la fin du mois de janvier. Et c'est l'excellente bande dessinée d'Hugo Bienvenue, Préférence Système, qui l'emporte. On est dans un monde tout à fait dystopique, on est en 2055 et les banques de données, vous savez, ces grands serveurs qui stockent toute la mémoire numérique de l'humanité, sont complètement saturés. Il faut faire de la place aux YouTuberies et autres stories pour réseaux sociaux. Donc, on fait le ménage régulièrement. Par exemple, un film comme 2001, l'Odyssée de l'espace, un taux de consultation de 0,00012%. Donc, il faut le supprimer pour faire de la place. Et il y a un résistant qui, lui, va stocker frauduleusement toutes ces données effacées de l'humanité. En même temps, on a de la gestation pour autrui par robot interposé. C'est tout à fait brillant. C'est Préférence Système d'Hugo Bienvenue chez De Noël Graphique.
Eh bien, bravo à Hugo, bienvenue, effectivement, j'ai eu l'album, c'est tout à fait remarquable. Mais avant cela, eh bien, comme d'habitude, ouverture solennelle, non pas de la cage, mais du grand livre des mauvais genres, avec notre sorte encyclopédie pratique. J'y arrive avec vous, Céline. Alors, ce soir, de quoi s'agit-il? De fauves, bien sûr.
Bien évidemment, mais je vais parler d'un club, d'un genre particulier qui réunit des croûtistes.
Les croûtistes,
ce sont les...
Alors, faites attention, parce que la dernière fois qu'on a employé ce mot à mauvais genre, c'était avec Franck Martin à propos des Vespasiennes. Donc j'espère de votre côté des précisions utiles.
Alors il n'y a pas d'histoire d'urine et de Vespasienne en effet voilà. Avec mes croûtistes qui sont des amateurs de croûte. Mauvais tableau, selon la définition partielle, je trouve, du Robert. Donc les croûtistes ont un club dont le chef d'orchestre est le dessinateur Laurent Lolmed, qui m'a reçu à l'occasion de l'exposition qu'il organise actuellement, une exposition comprenant une quarantaine d'œuvres. Donc nous nous trouvons face à une superbe croûte, qui est d'ailleurs le visuel du catalogue, et cela pourrait bien être un fauve.
On n'a jamais trop su. Il y en a qui disent que c'est un renard, un chien. Bon, moi, je pense que c'est un renard, mais on n'en est pas trop sûr. C'est un renard qui est de face, qui nous fixe. Je pense qu'il a peur. Il ouvre la bouche, il y a une espèce de... une harmonie colorée qui est géniale, parce qu'il n'y a que du rouge pour faire la bouche. et la langue. Après, tout est dans les marrons et les gris du fond. Les signatures dans les croûtes sont très importantes parce qu'elles sont souvent assez maladroites, assez grossières aussi. Et c'est ce qui fait le charme, finalement. Donc, il a aussi deux grandes oreilles très droites, des yeux très ronds. C'est magnifique. Attention, il faut savoir qu'il y a des grands, grands débats sur le croûtisme, sur la croûte, entre qu'est-ce qui est croûte, qu'est-ce qui n'est pas croûte, est-ce que c'est de l'art brut, est-ce que c'est de l'art naïf. C'est des débats passionnants aussi. Mais voilà, il faudrait presque être un peu dictateur pour dire « Ah, ça c'est de la croûte ou ça c'est pas de la croûte, mais bon, moi je suis pas là pour faire la police. » Voilà, c'est vraiment étonnant. J'en ai récupéré une comme celle avec le ciel qui a un clou qui dépasse. Mais ah, tu fais gaffe parce qu'il y a un gros clou qui dépasse. Mais il l'a, voyez, la personne qui l'a trouvé veut la laisser comme ça. Moi, j'ai pas le droit d'enlever le clou. Ça fait partie de l'œuvre. Ce qui est vraiment étonnant avec ce truc-là, c'est que ça change, à mon avis, et je pense que sur pas mal de gens, le regard complètement. C'est-à-dire que on peut passer pendant des années à côté de ces tableaux qui sont, pour la plupart, sans aucun intérêt, ou vraiment laids, ou vraiment... voilà. Et si on se dit simplement que on peut trouver de l'intérêt à quelque chose de laid, ou quelque chose de mauvais, ça change complètement les choses, et on regarde vraiment plus jamais les choses comme avant, en fait. Les croûtes, c'est une longue histoire, et moi, j'arrive depuis 5 mois. Mon associée, qui s'appelle Corinne Tonnet, elle était déjà un peu dans ce registre-là, puisqu'elle s'intéressait aux arts incohérents, que moi, je ne connaissais absolument pas. Mais bon, avec elle, j'ai pu voir que, par exemple, il y a eu un super numéro de l'assiette au beurre sur les croûtes, qu'elle m'a montré qu'elle avait, elle... Voilà, on a fait des recherches sur des photos des foires aux croûtes qui avaient lieu dans les années 20 à Paris. Les croûtes, c'est une longue histoire qui mérite d'être connue, et c'est pour ça qu'on est là.
La revanche des croûtes est le titre de ce groupe mené par le dessinateur Laurent Lolmed, apôtre de la réhabilitation des croûtes. Ricaneur ou cynique, passez votre chemin, car ce groupe, que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux, ne cherche pas à se moquer, mais à partager. Il n'y a qu'à lire le catalogue de la revanche des croûtes avec la passionnante préface de Corinne Tonnet, spécialiste des arts incohérents, pour en être certain. Un art plus sérieux qu'il n'y paraît, puisque les croûtes ont même leur musée, le MoBA, le Museum of Bad Art, créé en 94 aux États-Unis, dans le Massachusetts. Et les Parisiens, eux, pourront se rendre à l'exposition La Revanche des Croûtes, qui se tient en ce moment et jusqu'au 12 décembre au Resto Zinc Les Marcheurs de Planète, dans le 11e arrondissement, en attendant la prochaine exposition qui aura pour thème les interprétations de tableaux de maîtres. Plus d'informations sur la page de Mauvais Genre.
Merci Céline pour cette entrée croûtesque et savoureuse de notre encyclopédie pratique des mauvais genres. Rassurez-moi, Anne de Malraix, aucune croûte au musée de la chasse.
Aucune, évidemment.
Mais il y a quand même beaucoup de croûtes qui concernent tous ces animaux, toute la chasse, tout l'univers un peu des sous-bois. C'est quand même un secteur
L'animal est toujours représenté chez les croûtes.
Oui.
Ah oui,
fortement représenté. Je sais pas, les scènes de chasse aussi, d'ailleurs.
J'imagine que c'est un lieu d'inspiration pour le peintre du dimanche, inépuisable. La forêt, les animaux.
Antoine Guillaume.
Il y a un genre célèbre, c'est le genre de la biche au bois, en bord de bois. Il y a une dessinatrice, voilà. Alors je ne sais pas si elle est croûtiste, membre de cette association.
Sûrement.
Florence Sestac, grande chineuse, et qui collectionne les tableaux de biche au bois qu'elle redécore ensuite, enfin, dans lequel elle met ses personnages à grogner. Comme ça, il y a une toile célèbre qui s'appelle Serre biche au bois, et qui a été vendue assez cher d'ailleurs chez Millon récemment. On voit une belle scène comme ça, un petit ruisseau, quelques cervidés et une cervidée à grenée en porte-jartelle et juste au corps. Voilà.
Ouais, très belle proposition.
C'est Serbiche compris, pardon, ça s'appelle.
Pour le musée de la chasse, Anne de Malraix, si jamais vous voulez faire une exposition.
Tout est une question
de regard.
Sestac,
on en parlera. En attendant maintenant, bien, place aux fauves avec donc ce très beau numéro de la revue Bibo, partenariat France Culture. C'est une édition Glénat et la Fondation François Sommaire. De Malraux, donc notre invitée ce soir dans Mauvais Genre, on va la présenter à nos auditeurs, c'est la première fois qu'elle vient, Céline, il est normal, surtout que c'est une partenaire secrète, mais fervente.
Une partenaire, oui, on a déjà travaillé plusieurs fois ensemble avec Anne et Laurent Polleret, suite à la série qu'on avait faite sur les sorcières avec Laurent Polleret, et Anne nous avait contacté pour organiser une déambulation sonore dans les salles du musée, où nous avions diffusé des voix de sorcières. Donc ça a été notre première rencontre, ce qui fait que Anne est en effet tout à fait à l'aise dans le monde des sorcières, mais elle a aussi une autre qualité, c'est qu'elle est aussi tout à fait à l'aise dans le monde des animaux, puisque deuxième proposition que nous avons eue avec Anne, qui a été de même chose, faire une déambulation sonore autour des voix animales, et à chaque fois ça correspondait à une thématique qui était développée dans la revue Bilbao dont s'occupe Anne de Malraux depuis 2014. Donc voilà, je dirais que pour présenter Anne, alors il y a le titre officiel qui est rédactrice en chef de la revue, qui est directrice de la collection de la revue, mais qui est donc associée aussi au musée de la chasse et de la nature et qui fait partie de la fondation François Sommer. Donc ça, c'est le titre officiel. Mais après, Anne, on peut la voir avec une sorte de pelage comme ça, danser fauve à l'occasion des fêtes qu'elle organise, les fêtes de l'ours, et aussi tout à fait à l'aise dans des conférences où elle peut parler d'écoféminisme. Donc c'est une femme multiple.
Alors Anne de Malraux, parlons de Billboard. C'est une revue, moi, qui me séduit beaucoup parce qu'à la fois, elle fait toute sa place à l'imaginaire lié aux bêtes, aux animaux, et en même temps elle fait toute sa place à l'expérience directe des anthropologues, anthropologues, des gens qui se sont directement confrontés à la présence animale. Donc c'est une exigence que vous avez en permanence de mêler les deux et de montrer quel mythe l'un n'est pas compréhensible sans l'autre.
Oui, je pense que l'idée de Bilbao, c'est de prendre un thème qui peut en apparence être simple. Alors bon, c'est peut-être pas le cas de Fauve, mais je dirais que voilà, les autres numéros, le loup, l'ours, la forêt, le lapin, enfin, a priori, c'est pas très complexe comme approche. Et en fait, justement, l'idée, c'est que au fil de la revue et en entrant dans la revue à travers des propositions d'artistes contemporains, mais aussi le fait de retracer une longue histoire en fait de nos représentations en allant puiser dans l'imagerie des traités de chasse, par exemple, en invitant des philosophes, des anthropologues, des naturalistes, des écologues. L'idée, c'est de complexifier en fait tout ça et de comprendre que quand on sort un lapin d'un chapeau, en fait, c'est à la fois une proie, à la fois un nuisible, à la fois un doudou, à la fois un animal de compagnie, à la fois un animal d'élevage qui est élevé dans des conditions terribles, et qu'en fait, nos relations à la nature, c'est une sorte de construction de tout un imaginaire. Qui est très ancien, et finalement tout un nouage de relations complexes à chaque fois. Voilà.
Céline. Eh bien, je ne peux que surenchérir et acquiescer, et la preuve avec ce terme de fauve dont on va parler ce soir. Voilà un terme a priori où on a deux trois images qui nous viennent à l'esprit. En effet, les félins après un homme fauve, une femme fauve, et puis tout à coup on se retrouve face à ce mot. On lit par exemple l'article de Michel Pastoureau, et là, à travers l'étymologie, on découvre une polysémie de sens absolument extraordinaire. puisque ce terme de fauve, au départ, ne signifie simplement faiblement lumineux. Donc on est bien, bien loin des bêtes sauvages auxquelles on pense.
Alors, on va parler de l'article de Pastoureau, qui est effectivement tout à fait somptueux, comme d'habitude, avec lui. Mais là, vous avez, face aux fauves, vous êtes confronté à un problème redoutable, puisque c'est sûrement, je dirais, la catégorie animale la plus chargée, la plus populaire, la plus chargée de représentation. On a tous été confrontés, alors que ce soit Tarzan, le livre de la jungle, le nombre de représentations touchant les fauves est absolument vertigineux. Et puis en même temps, bon, là aussi, il y a quand même, c'est ceux qu'on voit le moins. Enfin, il faut vraiment le cirque pour qu'il soit présent, à la différence des lapins qu'on peut voir. Bon. Donc il y a une sorte de tension étrange dans le fauve, c'est sa proximité, sa popularité, je dirais presque son extraordinaire familiarité, en même temps son absence totale de visibilité en dehors des eaux et autres cirques. Mais les cirques, c'est terminé maintenant.
Oui, c'est peut-être pour ça que quand on parle de fauve, c'est assez compliqué de se rapprocher finalement de l'animal réel, si on veut, c'est-à-dire de l'animal un peu détaché justement de toutes ces projections et de tous ces fantasmes, même on pourrait dire, voilà, pour fauve. Mais justement, on trouvait ça intéressant d'essayer de faire le pari de plonger justement dans cette zone trouble, dans ces fantasmes autour du sauvage, du désir, de l'animalité, qui en fait structure vraiment profondément notre rapport aux sauvages et aux animaux sauvages en Occident, et surtout aux prédateurs évidemment, et d'essayer en fait de déconstruire un peu de l'intérieur tout ça, et à partir de ce mot fauve, c'était très intéressant de le faire, parce que c'est justement un mot qui se dérobe en permanence, et on est tombé au début de notre enquête dans un dictionnaire de la chasse, puisque de fait on a ce genre de littérature chez nous, sur une définition qui nous a beaucoup amusé, parce qu'en fait l'auteur baisse les bras en quelque sorte et dit que c'est un mot qui a été tellement chargé, gonflé de sens, qu'il a fini par éclater. Et en fait, on trouvait ça vraiment intéressant. Là où on peut avoir tendance, y compris à propos de la nature, à enfermer tous les êtres dans des catégories bien définies, et bien de se servir justement de ces brèches dans le mot fauve, qui est un mot qui tient ensemble. Non,
justement,
en fait,
que nous apprend Pastoureau, ça commence, ça c'est un adjectif qui renvoie à la pâleur, enfin quelque chose qui est un peu. Et puis on termine avec les fauves, avec une école de peinture, et donc il y a véritablement une espèce d'évolution, de mutation lexicale.
Et ça commence aussi avec un adjectif, c'est
oui,
ça qui est intéressant,
ça, hein, oui.
C'est une couleur, un adjectif.
Oui, c'est d'abord un adjectif qui désigne une couleur assez fade, en fait, très pâle, et puis qui désigne aussi plutôt, et ça c'est encore un autre paradoxe, des proies que des prédateurs. C'est-à-dire qu'au départ, une bête fauve, c'est un chevreuil, un daim. Et dans les traités de chasse, en fait, les bêtes fauves ne désignent pas du tout les animaux dangereux qu'ils désignent.
Alors, au tout départ, en période médiévale, le mot fauve renvoie exactement au contraire de ce qu'il signifie aujourd'hui.
En quelque sorte, oui. Ouais.
Et il est face aussi aux bêtes noires et aux bêtes rousses, puisque tout est, en effet, comme vous dites, dans des catégories. Donc, les bêtes noires, elles sont de quel côté plutôt? Ce sont les loups, les sangliers, et les bêtes rousses, les renards. Blaireau, lièvre. Et...
Voilà, et en fait, ce sont les bêtes noires qui, en quelque sorte, dans la classification symbolique du chasseur, qui contiennent le plus de sauvagerie, en fait. Et pas du tout les bêtes fauves.
Alors, en bout de course, si j'ose dire, mais la course n'est pas finie, puisque les mots continuent d'évoluer et tout réinvestissement est toujours possible, le mot fauve est devenu plutôt un adjectif qui renvoie à une sorte de pulsion irréfrénée, à une sauvagerie spontanée, à quelque chose qui se déchaîne. Donc on n'est plus du tout dans la pâleur et dans la proie, on est plutôt dans une sorte de submersion. C'est je me souviens de, je vais pas l'imiter, de Rému dans la pièce de Pagnol, disant à qui c'était peut-être Pierre Freinet, tu t'es jeté sur moi comme une bête fauve. Et c'est effectivement, c'est ça aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, quand on dit vous êtes conduit comme un fauve, vous avez un appétit de fauve, vous tous, c'est quelqu'un qui se laisse submerger par le
pulsionnel. Sentir le fauve aussi.
Ou sentir le fauve, alors, oui. C'est l'animalité non maîtrisée. Anne de Malraye.
En fait, c'est assez tardif l'usage. Alors, vous disiez l'adjectif change de sens, mais en fait, l'adjectif aussi se substantive. C'est-à-dire, on dit maintenant c'est un fauve. Voilà. Et ça, c'est tardif, ça, c'est plutôt au XVIIIe siècle. Et c'est d'abord en littérature, en fait, qu'on trouve cette acception-là du mot fauve. Et effectivement, le mot fauve se met alors à caractériser des animaux connus pour leur dangerosité, leur férocité, et en même temps qui ont ce caractère attirant.
C'est ça, oui, ça c'est très intéressant.
Il y a cette ambiguïté, en fait, et se met aussi à désigner des humains qui sont, comme vous le disiez, habités par des pulsions animales, on pourrait même dire bestiales, en fait. Voilà.
Et donc sexuelles, parce qu'il y a cette dimension sexuelle autour du désir qui est très présente dans le terme fauve.
Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Petit singe, une découverte de Laurent Polleret pour notre playlist fauve de ce soir dans Mauvais Genre sur France Culture. Alors deux articles, deux études dans Bilbo de Malaret témoignent non pas du rapport à un imaginaire bestial ou sauvage, mais plutôt confrontation directe. L'article de Nastassia Martin qui s'intitule « Sous le visage » et l'autre de Pierre Duplessis qui s'intitule lui explicitement « Sentir le lion » et qui renvoie tout d'abord à des expériences directes. Alors Pierre Duplessis parle effectivement d'un zoologue, d'anthropologue, le mot, vous me direz quel est le mot correct, qui lui a une convivialité, une confiance, un amour avec une lionne, donc il y a des photos, et tout se passe très bien. Par contre, Nastassia Martin, elle a commis cette petite erreur, mais après tout, on la commettrait tous, de regarder un ours dans les yeux. Et ça, faut pas, Anne de Malleret.
Oui, alors dans chaque numéro, effectivement, on invite des anthropologues, parce que ce qui nous intéresse, c'est de confronter notre rapport occidental, en fait, à la nature, à d'autres formes, d'autres cultures, d'autres cosmologies, on pourrait dire. Et alors, c'est dur de résumer les deux, mais je dirais que, effectivement, dans l'article de Pierre Duplessis, qui est anthropologue et qui travaille en Afrique du Sud et au Botswana, il raconte deux histoires parallèles, celle de cette occidentale Val qui a recueilli une lionne bébé en fait et qui a développé une sorte de relation presque, enfin très exclusive et effectivement très affectueuse avec cette lionne.
Alors il y a une photo, alors un moment il la tient par la queue comme si elle le traînait, voilà. c'est pas lui
qui traîne. Les gros câlins.
Et puis l'autre, c'est le gros câlin, donc effectivement.
Ouais. Et en fait, ces images-là ont fait des millions de vues sur YouTube et c'est une histoire d'amitié hyper populaire. Et en fait, cet anthropologue, il la confronte avec une autre forme d'intimité avec l'animal. Avec le lion, qui est celle des chasseurs San qui vivent sur le même territoire et qui, eux, en fait, c'est pour ça que ça s'appelle Sentir le lion. Et eux, en fait, décrivent qu'ils ont les dessous de bras qui leur chatouillent, picotent, voilà, à l'approche du lion, mais en fait, sans avoir besoin de voir l'animal ou même de l'entendre parce que ce sont des pisteurs extrêmement aguerris. Mais là, il s'agit d'autre chose, en fait. Et il met en regard cette double intimité qui repose sur deux relations complètement différentes. Une, finalement, d'apprivoisement, de contraintes de l'animal, et l'autre, d'une histoire de cohabitation, en fait, sur le même territoire où les deux sont chasseurs, et donc adversaire, mais dans une proximité très, très forte. Et pour ce qui est de Nastassia, en fait, Nastassia Martin, ce qu'elle raconte dans cet article, c'est un petit peu la même chose au sens où elle essaie de montrer ce qui se joue dans cette zone qui, dans l'animisme, se matérialise par des rituels, par la chasse, cette zone liminaire de rencontre entre humanité et animalité, où l'identité des uns et des autres se trouble, en fait, et on ne sait plus très bien qui est qui. Et ensuite, il y a, à la fin du rituel, à la fin de la chasse, le retour à soi. Voilà. Et alors, regarder l'animal dans les yeux, effectivement, c'est regarder cette intériorité de l'animal, mais qui n'est pas une altérité radicale, au sens où il y a un fond commun aux deux. Voilà. Et donc, c'est à la fois une zone dangereuse et en même temps une zone où on prend conscience de cette communauté, en fait, d'être.
Céline Duchesnay.
Moi, j'ai été tout à fait fascinée par cet article de Pierre Duplessis, « Sentir le lion », parce qu'il nous montre aussi que les sens que nous avons, nous, je dirais, occidentaux, en ville ou même à la campagne, ne sont pas du tout les mêmes quand on a ce rapport, je dirais, et au territoire, et à la terre, et à la chasse, et à la cueillette, comme le peuple San, qui a été à un moment caricaturé avec « Les dieux sont tombés sur la tête ». Ce sont ces gens qui parlent avec un système de clics. Et quand eux sentent le lion, ça fait appel à un sens qui n'est pas les cinq sens auxquels on est habitué et qui est de l'ordre de justement on ne sait pas, et c'est là je trouve la beauté de cet article, c'est que finalement ils réussissent à déceler la présence de l'animal à travers cette image de fourmillement sous leurs aisselles qui correspond à rien de ce qui nous est familier à nous. Et cet article ouvre un champ des possibles absolument étonnant et extraordinaire pour nous montrer qu'il y a peut-être aussi d'autres manières de sentir, d'appréhender, de vivre les choses, et on ne sait pas comment encore, parce qu'il n'y a pas de réponse claire et précise sur comment ils sentent la présence du fauve, mais ça existe. Donc je trouve que c'est un appel à ouvrir nos imaginaires.
Anne Le Malray.
Oui, je crois que c'est un des enjeux, hein, clairement. Il y a un entretien aussi dans le numéro avec le philosophe Baptiste Morisot.
Très intéressant, ce concept lui, alien familier.
Oui, alors c'est pas évident à rapporter, mais lui, il parle vraiment de détordre l'imaginaire du fauve. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire détordre l'imaginaire ? Je pense que il s'agit pas de chercher à revenir aux animaux pour eux-mêmes, en quelque sorte, croire qu'en fait on peut avoir accès à l'animal dans son essence, qui serait une essence vraie. En fait, c'est toujours médié par évidemment des projections, des représentations, un imaginaire. Mais ce qu'il dit, lui, c'est qu'il y a des représentations et des imaginaires qui nous rapprochent de l'animal et d'autres qui nous en éloignent. Voilà. Et je pense que dans Bilbo, on essaie, et dans ce numéro en particulier, de nous approcher dans une sorte de danse, si on veut, parce qu'on est porté, évidemment, par la puissance de cet imaginaire du fauve, on ne va pas se mentir, hein, mais voilà, d'aller plus près, en fait.
Alors, le vivre avec les fauves a néanmoins certaines limites, et ces limites ont été expérimentées par Noël Marshall et sa femme Tippi Hedren, célèbre actrice hollywoodienne, en tout cas pour sa participation au film de Hitchcock. Antoine Guillot, parce que vous avez mis la main quand même sur le film dont il fallait que nous parlions, Roar.
Oui, alors des films avec un ou deux lions, quelques fauves, ça existe, mais oui. Alors un film où il y a 71 lions, 26 tigres, 10 pumas, 9 panthères noires.
Ensemble !
Attendez, 4 léopards, 1 tigron, 2 jaguars, mais aussi 2 éléphants, 6 cygnes noirs, des flamants roses, un héron, 2 paons, ainsi qu'un marabout d'Afrique. Eh bien, ce film existe, c'est Roar de Noël Marshall. On va en entendre un extrait.
Dont on entend la bande annonce.
Quel bonheur.
This is a madhouse.
No, it is. It's just like life. You get the funny with the tragic.
Here we are in Eden. Though we walk to stay. Almost look away.
See the shadow of the eagle in the sunrise. Hear the music of the children in the moonrise. Feel the power of the lion when he roars like thunder.
Roar.
But the cats got a little extra. Yeah, that's all.
Why did you bring us here? We're just gonna die.
Roar.
And
Do you know what your friends are probably doing to your family right now? They are eating.
Shut up. Whose
land is this? This is my land.
Voilà le trailer de Roar de Neil Marshall, entre musique édénique, folk sympa et Groar.
Voilà, alors c'est un film qui est très étrange, qui a longtemps eu plus une réputation, parce qu'on pouvait pas beaucoup le voir. Il était sorti en catimini en France en 1984 dans quelques salles de région. Il a une sortie complètement sabordée aux États-Unis. Alors dans la réputation, on parle du film le plus dangereux de tous les temps, on va voir pourquoi. On parle aussi du home movie le plus cher de tous les temps, hein, $17 millions, oui. Alors qu'il était budgété à 3 au début part et qu'il en a rapporté 2. Et Jeff Goldblum a une très belle expression sur ce film. Il parle de la pire idée de toute la longue et triste histoire des mauvaises idées. Alors, quelle est l'idée au départ? Tippi Hedren, vous l'avez dit, sort des films de Hitchcock. Elle a fait Les Oiseaux et Pas de printemps pour Marnie. Elle a dû subir déjà les assauts de divers animaux, des vrais oiseaux que lui lançait Hitchcock à la figure alors qu'il lui avait dit que ça serait des oiseaux mécaniques. Et puis, les assauts de la bête qu'était Hitchcock lui-même, qui était très intéressé par le corps de Tippi Hedren et tout ce qui pouvait lui faire subir par des effets de cinéma interposés.
Donc
elle est un peu fâchée avec le cinéma et avec son mari Noël Marshall, qui va faire fortune en étant l'agent artistique de William Peter Blatty, c'est-à-dire l'auteur de L'Exorciste. Donc il va toucher beaucoup d'argent grâce au succès de L'Exorciste. Blatty avait un peu oublié de le payer, mais finalement la Warner va finir par le dédommager.
$15 millions.
Tout de même. Et alors voilà, il se promène en Afrique au hasard du tournage d'un film pas très important, parce que Tippi Hedren va faire beaucoup de films pas très importants après Hitchcock. Et là, au Mozambique, il découvre une sorte de ferme, une maison de type portugais où vivent plusieurs fauves ensemble. Il trouve l'idée géniale, c'est très beau, et ils se mettent à collectionner des fauves dans leur maison de Beverly Hills.
Collectionner des fauves,
c'est ça. Donc ils vont en acheter, et puis peu à peu, ça va devenir une sorte de refuge pour les animaux des zoos. Même le gouvernement, quand il y a des gens qui maltraitent leurs fauves personnelles, les mettre chez eux. Donc évidemment, à Beverly Hills, la maison a beau être assez sécurisée, ça devient un peu encombrant pour le voisinage. Donc ils vont s'acheter un ranch au fin fond d'une vallée californienne, et là ils vont accumuler tous ces fauves dont je vous ai donné la liste. Donc ils ont à peu près 150 félins de toute espèce. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'ils rêvent de faire un film à la gloire des animaux, de ces animaux sauvages, de leur beauté. Et les dresseurs qui à l'époque font la série d'Actari notamment, lui disent: bon, écoutez, c'est un peu compliqué un fauve, mais alors plusieurs ensemble, c'est quasiment impossible. Le mieux, c'est que vous les éleviez vous-même, qu'ils s'habituent à votre présence, qu'ils s'habituent à être ensemble, et avec ça, vous allez pouvoir faire un film. Idée géniale, on va faire ça. Et donc, ils mettent toutes leurs économies dedans, toutes leurs propriétés, leur terrain, tout l'argent qu'ils ont gagné, et ce qui devait se tourner en un an leur prendra 10 ans à peu près pour faire le montage financier et pour faire le tournage. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le film devient quasiment coécrit par les bêtes. D'ailleurs, c'est dès le début, dans le générique, ils vont préciser ces animaux ne sont pas dressés, donc il faut leur donner des crédits de co-scénariste, de réalisateur. Et effectivement, parce que quand on tourne avec des fauves, ces bêtes sont complètement imprévisibles pour le coup. Donc toute l'histoire qu'ils voulaient raconter au départ, qui est censée se passer en Afrique, un médecin qui a fait lui-même un refuge pour les animaux, il se bat contre les braconniers. D'à côté, ce scénario part complètement
l'humanisme
à volo et devient ce film qu'ils voulaient, donc je lis, à la gloire des animaux, devient une sorte de film d'horreur permanent sur le principe de l'invasion de la maison. C'est-à-dire qu'on est dans un principe assez... ça pourrait être le Carpenter de Assaut, il faut protéger la maison. Et les bêtes s'infiltrent sans arrêt dans le plan. Donc on obtient à l'écran une saturation permanente du plan. C'est en scope, c'est rempli en permanence de bêtes qui vont et qui viennent, qui sont très joueuses, mais ils ont une manière assez personnelle de jouer qui consiste à se faire des gros câlins, mais l'animal pèse très lourd, à griffer, à mordre. Et c'est ce qu'on voit à l'écran. Donc on a sans arrêt les personnages et la famille du héros du film qui débarque joyeusement de Chicago, qui arrive dans cette maison. Oh que c'est joli. On voit des fauves de partout sur les toits, par les fenêtres, mais eux ne les voient pas. Et tout d'un coup, ils sont envahis et ils doivent fuir de la manière la plus absurde possible, qui consiste à se planquer dans des frigos, dans des armoires, dans une barrique remplie d'eau où les animaux vont boire l'eau jusqu'à ce qu'il ait... Voilà, il y a les éléphants aussi qui détruisent des canaux. Bon, alors ça, c'est ce qu'on voit à l'écran. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est évidemment le tour tournage de ce film. C'est-à-dire que dès le début, c'est marqué qu'aucun animal n'a été blessé pendant le tournage de ce film, ce qui n'est pas le cas des membres de l'équipe. Et effectivement, on dit 70, c'est plus probablement une centaine de personnes qui ont été plus ou moins gravement blessées. Alors celui qui a été le plus gravement blessé, c'est Yann De Bont, le chef opérateur de Paul Verhoeven, futur réalisateur de Speed, qui lui s'est fait scalper carrément.
Alors, il y a une photo d'ailleurs de...
Il y a une photo de lui.
Qui a servi d'affiche.
Alors ce qui est très fou, c'est que quand le film est ressorti en 2015, qu'il a été édité en Blu-ray DVD, ce que nous avons maintenant en France, la publicité du film, c'était une photo de Yann De Bont scalpé et une photo de Mélanie Griffiths, la fille de Tippi Hedren, qui elle s'est fait lacérer le visage, a failli perdre un œil. Ça a été la première de sa longue série d'opérations de chirurgie esthétique, mais ça a presque fait la publicité du film. Noël Marshall s'est fait tellement mordre qu'il a fini par attraper la gangrène, parce qu'il faut savoir que quand ces bêtes vous mordent, elles vous transmettent des bactéries extrêmement dangereuses qui immédiatement vous provoquent une septicémie.
Il rigole.
Absolument. Mais ce qui est complètement incroyable, c'est que la plupart des gens du film se faisaient blesser, allaient à l'hôpital se faire soigner et retournaient sur le tournage. Et donc, ce qu'on voit, qui est un film que vous pouvez tout à fait montrer à vos enfants. Moi, j'ai fait le test sur mes enfants l'an dernier quand il est ressorti. Ils avaient 9 ans. Ils adorent parce que c'est une espèce de grand film horrifique pour enfants et comique aussi. Parce que vous voyez les lions faire du skateboard dans les affaires qu'ils ont lacérées de cette famille qui arrivait. Mais quand on est adulte, on est pris d'un effroi terrible parce que ce qu'on voit, c'est une sorte de mondo film, de snuff movie permanent. Et il y a une scène notamment où Tippi Hedren s'est fait mordre elle aussi à la tête. Ça a mis une demi-heure à relâcher l'étreinte. Et ça, on le voit dans le film. Le sang qu'on voit dans le film est du vrai sang. Donc c'est un film complètement paniquant, très mal foutu, écrit par des animaux, mais assez génial.
Céline.
Alors c'est vrai que le scénario est très dilué. Si on est focalisé là-dessus, on peut quand même éventuellement s'ennuyer si on n'a pas de petits-enfants à côté de soi pour regarder le film. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un film de famille puisque les acteurs sont les enfants du producteur.
Griffiths,
exactement. Les deux, je crois qu'il y a aussi les deux garçons
qui
sont
les fils.
Voilà. Et il y a tout un tas de règles qui ont été établies, une sorte de code conduite aussi pour savoir comment se comporter avec des fauves pour une cohabitation dite paisible. Alors il ne faut pas s'enfuir en leur présence, ne surtout pas jouer à cache-cache avec eux.
Pas les regarder dans les yeux.
Ça, on le savait grâce à l'ours. Mais lorsqu'ils attaquent, il ne faut pas se débattre et épouser leurs mouvements jusqu'à ce qu'ils libèrent leur emprise. Donc il y a des choses qui sont assez jolies comme ça quand on lit ce code de conduite, ou alors garder la porte de sa chambre ouverte la nuit afin de développer la confiance entre hommes et animaux. Mais ce qui fait qu'en pleine nuit, vous pouvez vous retrouver dans une chambre avec 20 fauves autour de vous en train de ronfler paisiblement.
Paisiblement. Je note bien Roar de Noël Marshall, disponible en combo Blu-ray DVD chez Rimini Édition. Alors pour ceux qui préfèrent laisser la porte de leur chambre la nuit fermée, éviter peut-être que 20 lions viennent voluptueusement s'installer et somnoler sur leur lit et qui préfèrent la distance, eh bien effectivement on a inventé la ménagerie, Anne de Malraye. Et là il y a un très beau texte de Jean-Christophe Bailly dans Big Bold qui évoque ses souvenirs d'enfance à l'époque où avec sa famille ils allaient voir les zoos parisiens. Je le cite, ces formes ramassées puissantes, cette souveraineté, cette effrayante et fascinante souplesse qui caractérisait les fauves, voici qu'au lieu de se déployer à travers des images, elles étaient là, sous mes yeux, dans ces cages, qui condamnent leurs pensionnaires, comme on dit ou ose dire, à la visibilité. À ces êtres dont la vie est d'abord un festin de cachettes et de surgissements, à ces êtres perpétuellement aux aguets, conservant jusque dans leurs poses les plus alanguies quelque chose d'une veille passionnée, les hommes n'avaient su offrir que les espaces d'une retraite forcée où rien d'autre qu'eux-mêmes ne subsistait de leur monde. Magnifique texte d'ailleurs de Jean-Christophe Bailly, c'est pas le premier grand écrivain, mais là il essaie de... C'est ça qui est passionnant, prenant la suite de poètes comme Rainer Maria Rilke, dont vous citez le poème sur la panthère célèbre, il essaie d'analyser au plus profond le sentiment quand on est enfant, on ressent au spectacle d'un fauve en cage. C'est parce que la plupart des fauves, nous on les a vus en cage, Anne de Malraux.
Oui, c'est ça. En fait, ça nous paraissait absolument évident de consacrer... une galerie, donc il y a une galerie voilà, de photographies anciennes qui présente une série de cartes postales en fait, de ce qu'était la ménagerie du Jardin des Plantes avant la construction de la Fauverie, qui est le bâtiment art déco qu'on peut encore voir aujourd'hui, qui a été rénové en 2012. Et à ce moment-là, la ménagerie, c'était des cages de 3 mètres par 3 mètres sans aucun aménagement particulier. Et donc, effectivement, ce qui se manifestait dans ces cages, alors voilà, Rilke, il parle d'une danse de force autour d'un centre, voir ces animaux avec leur puissance et leur musculature qui tournent en rond indéfiniment dans les cages. Et effectivement, c'est, je pense, pour les Occidentaux, la seule manière et occasion d'avoir vu des fauves. Et en fait, c'est de là, il nous a semblé, peut-être que cet imaginaire voilà, de puissance contenue, de lâcher les fauves, dompter les fauves, sentir le fauve aussi, parce que ce que dit justement Jean-Christophe Bailly, c'est qu'en entrant dans cet endroit-là, au moment où c'était encore des cages, il y a cette odeur qui prend au nez. Et dans ce beau texte, oui, je crois qu'il décrit bien ce paradoxe de voir ces animaux dans des formes de vie extrêmement contraintes, condamnées à la visibilité, alors que leur régime de vie, c'est l'invisibilité, justement. Mmh. Et en même temps, de voir comment ils arrivent à tenir quelque chose de ce qu'ils sont et de cette puissance que décrit aussi Rilke dans ce poème.
C'est vrai que ces cartes postales du début du XXe siècle sont absolument saisissantes parce que on regarde le titre de l'une c'est la panthère, le titre de l'autre c'est le lion, mais nous aujourd'hui en 2019 qu'est-ce qu'on voit? On voit à peine les bêtes, ce qu'on voit ce sont ces barreaux et il y a plus une représentation de prison avec ces barreaux verticales et derrière la panthère que l'on aperçoit, derrière le lion qu'on aperçoit, donc des bêtes qui étaient conservées dans des espaces 3 mètres sur 3 jusqu'en 1937, et c'est certain que d'avoir mis ce poème, La Panthère de Rilke, juste à côté, rend peut-être ces photos encore plus saisissantes. Je cite les deux premiers vers en parlant de la panthère. Son regard, à force d'user les barreaux, s'est tant épuisé qu'il ne retient plus rien.
Anne de Malraux.
Oui, d'ailleurs, c'est le titre entier du poème, c'est La Panthère au Jardin des Plantes. Donc, c'est vraiment à partir de l'observation. Peut-être de cette panthère là qu'on a reproduit dans la revue qu'il a écrit ce poème.
Par Dravier, un choix de Laurent Polleret, un choix fauve pour Mauvais Genre sur France Culture ce soir. Alors, on a évoqué là les animaux, qu'ils soient en cage ou ou dans leur élément, ou dans la chambre à coucher jusqu'à présent. Maintenant, on va traiter la question avec vous, Anne de Malraye, à l'occasion de ce numéro de Bibaud sur les fauves, de l'imaginaire, avec cette citation d'abord dans une petite anthologie qui figure très bien faite dans la revue. Balzac, une passion dans le désert. Alors, savez-vous que ça, c'est une grande nouveauté, brusquement d'étincelle géniale de Balzac, d'avoir imaginé dans ce texte à la fois connu et pas très connu dans la constellation des récits balzaciens, de cet officier français perdu dans le désert qui tombe sur une panthère et qui entretient avec elle, ma foi, une sorte de passion, puisque c'est le mot du titre, une sorte de lien quasi érotique, Anne de Malraye.
Oui, en fait, il y a un dossier dans la revue qui est consacré à une sorte d'exploration de la figure du fauve en littérature. Et on a intitulé ce dossier « Étreinte fauve » parce que justement ce motif de l'étreinte revient sous des formes diverses et dans des circonstances diverses. Et donc, il y a un extrait de Maurice Genevoix, La dernière harde, et effectivement, un extrait de cette nouvelle de Balzac, Une passion dans le désert. Alors en fait, pour nous, il ne s'agissait pas de l'apprendre, c'est-à-dire, c'était pas, on n'embrasse pas justement, on n'étreint pas cet imaginaire-là qui est décrit, parce que c'est quand même une sorte de féminisation de la panthère qui... se plie aux caresses du soldat. Enfin, il y a tout un imaginaire qui est quand même très chargé. Mais on trouvait ça vraiment intéressant de voir comment, tout à coup, voilà, dans une nouvelle du 19e siècle, il débarquait. Et comment ça pouvait nous renseigner justement sur ce lien entre félin, fauve, sexualité et désir. Voilà.
Parce que ça va même assez loin, puisque je cite le texte, la sultane du désert, donc la panthère, agréa les talents de son esclave en levant la tête, en tendant le cou, en accusant son ivresse par la tranquillité de son attitude. Le français songea soudain que, pour assassiner d'un seul coup cette farouche princesse, il fallait la poignarder dans la gorge. Donc il y a à la fois un rapport d'asservissement, l'homme est submergé, extrêmement marqué par cette passion là, et puis qui confine à l'esclavage, et en même temps il y a toujours en lui l'idée d'une sorte de se libérer, de s'en échapper par le meurtre. Donc c'est une grande tension.
En fait, pour comprendre le statut de ce texte dans le numéro, il faut revenir sur d'autres articles. Il y a celui de l'historien Pierre-Olivier Dittmar qui raconte en fait l'émergence du terme de bestialité en Occident et comment c'est lié en fait dans l'Occident chrétien à cette sorte d'association qui a été faite entre bestialité, animalité de l'humain et passion, ce qu'on appelle les bas instincts, quoi. C'est-à-dire cette espèce de lien entre l'animalité sauvage, les pulsions sexuelles, et l'humain, il se tisse en fait à ce moment-là et il traverse ensuite les siècles.
Le fauve étant chargé d'incarner les pulsions.
Exactement.
Qui sans lui resteraient invisibles.
Exactement. Et il y a une négativité là-dedans, mais il y a aussi une sorte de fascination et de côté positif qu'on retrouve dans les avant-gardes du XXe siècle avec, on parle rapidement des fauves, le mouvement pictural, qui là est une sorte d'exaltation justement de cette sauvagerie de l'humain. Et on est un peu pris entre ces deux polarités. Quoi.
Une œuvre dont on ne pouvait pas ne pas parler à mauvais genre quand il s'agit de fauves, c'est bien sûr La Cat People de Jacques Tourneur.
School. Gee whiz, Mrs. Hanson. Oh, come here, window.
Bande son absolument géniale de Cat People, la féline de Jacques Tourneur. Alors là, justement, on a beaucoup parlé du poids, de l'odeur, de la corporéité des fauves, de leur animalité préhensible et visible. Là, on ne voit rien. C'est ça le génial, le génie de Tourneur. On entend le feulement qui court comme ça dans cet univers carrelé et blanc de la piscine où le corps de la proie est exposé. On voit l'ombre sur le mur. On entend les cris, d'ailleurs répercutés de manière assez insoutenable par, je ne sais pas quel est le nom de l'artiste, qui est dans la piscine et qui redoute terriblement l'assaut de la féline. Mais c'est totalement génial, Céline Duchesnay, puisque là, c'est une sorte d'atmosphère, de climat, et non pas de présence.
Et pour reprendre le fil de notre conversation, c'est vrai que le film commence dans un zoo, et devant une cage, on voit une panthère dans un tout petit espace en train de tourner en rond, avec les deux personnages principaux qu'on va suivre tout le long du film. Cette femme, qui est d'origine étrangère, je pense que c'est bien de le rappeler aussi, qui vient de l'Europe centrale, donc une zone un peu trouble, une sorcière avec un lignage de sorcière derrière elle, et puis cet Américain bon teint en bon ton, et ils vont tomber amoureux l'un de l'autre avec toujours cette peur petit à petit qui va s'inscrire et qui va habiter le film, que cette femme est peut-être féline et peut-être une panthère. Donc la seule panthère que l'on verra vraiment dans le film, c'est cette bête dans la cage, mais par contre on l'entendra tout le long en effet.
Anne de Malraix, un mot sur la panthère de Jacques Tourneur.
Oui, mais je l'ai vu sur vos conseils avisés. Et en fait, d'ailleurs, je l'ai vu après avoir fait le numéro et je me suis dit que c'était un condensé parfait, en fait, de tout cet imaginaire marqué par le judéo-christianisme dans le rapport au sexe, à l'animal, à la féminité. Et puis, voilà, c'est cette espèce d'animalité qui surgit et qui est complètement dévoratrice, y compris pour cette héroïne, finalement.
On termine avec une panthère qu'on aime bien, mauvais genre, celle de Brecht Evans, l'album Panthère, donc, qui ressort chez Actes Sud, Antoine, dans une version collector.
Et dans une version augmentée et remaniée, notamment sur la fin, avec le fameux thé des peluches démoniaques, qui prend une dimension encore plus perturbante, parce que c'est un livre qui est très beau, quand vous le voyez, il vous séduit immédiatement, vous avez envie, je parlais des enfants tout à l'heure, vous avez envie de l'offrir à des enfants, et puis une fois que vous l'avez lu, vous vous dites que peut-être ça serait mieux qu'ils le lisent un peu plus tard. Et pourtant, ce film parle précisément de l'enfance. C'est l'histoire d'une petite fille de 6 ans qui vient de perdre sa chatte Patchouli, qui s'est fait euthanasier chez le vétérinaire. Évidemment, on l'a pas prévenu. On lui a dit elle reviendra en pleine santé. Et puis un jour, elle le retrouve dans le tiroir du bas du freezer avant qu'il soit enterré. Et on a beau fermer la porte, on parlait tout à l'heure de fermer la porte aux fauves, les fauves ressurgissent toujours. Et là, en l'occurrence, le fauve surgit par le tiroir de la commode. C'est Octave Abracadolphus Panthérus, prince héritier de Panthésia, le pays des panthères. C'est donc une panthère mais en perpétuelle métamorphose, on peut dire polymorphe comme on parle des pervers, avec une sorte de conte très cruel, très ambigu, très malaisant, plus ça se prolonge, parce que ce fauve est très caressant, il aime beaucoup faire des massages, il aime beaucoup faire venir des créatures un peu inquiétantes qui sortent du tiroir et qui elles-mêmes changent de forme quand on les caresse. Et tout d'un coup, on se rend compte que ce film nous parle peut-être bien de pédophilie, de viol et en tout cas d'angoisses enfantines auxquelles il s'agit de survivre. L'inconscient est encore plus terrifiant que chez Tourneur. Là, ce sont des créatures qui habitent un monde enfoui en nous et c'est une œuvre géniale. Je crois que c'est un des chefs-d'œuvre de la bande dessinée de ces dernières années. Donc Panthère de Brecht Evans en version remaniée et définitive vient de ressortir chez Actes Sud BD.
Merci Antoine. Et bien parfois les fauves s'échappent, ils échappent à leur cage, ils échappent à leur propriétaire, ils vont rôder sur les rues, dans les routes, sur les autoroutes et on les voit même, pourquoi pas, hanter les ronds-points. Et c'est par ces rocades humaines, trop humaines, que nous terminons ce mauvais genre avec bien sûr le maître Beer.
Reliée et cartonnée d'un format oblong indispensable, la France des ronds-points rassemble 200 cartes postales sélectionnées par le collectionneur Jean-Marie Donat, censées proposer les clichés d'une France idyllique. L'essor du tourisme contribua à ce commerce iconographique fait de paysages champêtres, de villages fleuris, immortalisant de vieilles pierres muséales et des coutumes folkloriques. Ces charmes surannés disparaissent à partir des années 1960. L'essor industriel des Trente Glorieuses, le développement de l'urbanisme et de la société des loisirs offrent aux éditeurs de cartes postales de nouveaux motifs d'émerveillement. Ils initient eux-mêmes des campagnes photographiques et répondent aux commandes des collectivités et des entreprises. Il s'agit désormais de mettre en valeur un quartier d'activité, une infrastructure de transport, un échangeur autoroutier et pour les expéditeurs de ces cartes, de valoriser leur lotissement pavillonnaire, le complexe vacancier qui font leur bonheur, la centrale nucléaire, fierté de leur région, la conviviale terrasse de leur snack crêperie aux parasols enchanteurs ou les promesses de gains du bar PMU sis au bas de leur charmante tour locative. La sélection de Donna retrouve la laideur ontologique des Boeing Cards de Martin Parr. Elle n'invite plus à un ennui profond, mais au repos définitif d'un funérarium, celui de Villeneuve-Saint-Georges, imposante masse hexagonale bordée de haies rigoureusement taillées. Ou au plaisir d'un repas de réfectoire dans la salle à manger du centre médical des Trois Épis, au Rhin, nappes à rayures ocre, chaises tubulaires en sky vert assorties au papier uni des murs. Notons des efforts louables. Le papier peint floral jaune d'une chambre fonctionnelle de la Falec, maison de repos de Longpré, ou la moquette vert gazon du hall d'accueil de l'office de tourisme de Fougères, avec son comptoir en formica marron. L'obstination des photographes à bannir de leur cadre les présences humaines ou à les figer dans un simulacre d'activité donne le vertige d'une France inerte, abandonnée. Zone piétonne sans piétons. Chambre d'hôtel, salle polyvalente, parking de centres commerciaux impeccablement vides nous engluent dans un cauchemar dépressif. Dans sa postface, Éric Alonso nous en tire, observant les détails révolus d'une France moins aliénée qu'il ne paraît. Quand les jardins privés s'ouvraient sur la rue sans clôture et que des vaches broutaient au pied des grands ensembles de Ris-Orangis.
Voilà, les vaches qui broutaient à Ris-Orangis, il n'y avait pas encore de fauves au pied des grands ensembles. Une précision, Bilbo de...
Oui, Bilbo de se laisse voir aussi au Théâtre de la Reine Blanche avec une série de conférences appelée Dérapante avec la Compagnie du Singe Debout. La prochaine aura lieu le mardi 17 décembre à 20h45, donc au Théâtre de la Reine Blanche à Paris. Le thème, l'ours à bras le corps.
Merci Céline, merci Anne de Malraix d'avoir
merci
été ce
vous.
Soir l'invité de Mauvais Genre. On recommande évidemment chaudement comme un fauve le numéro de la revue Bilbo sur les fauves édité par Glénat et la Fondation François Sommer. C'est un événement France Culture, donc Bilbo spécial fauve, Roar en combo DVD Blu-ray, c'est chez Rimini Édition, et puis bien sûr le grandiose Brecht Evans Panthère, c'est chez Actes Sud de BD. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Julien Doumain, Claire Poinsignon, Claire Martin-Duguerre, Céline Duchesneau, Antoine Guillaume, Christophe Sebir et François Angelier vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve samedi prochain pour une visite guidée de l'exposition Tolkien à la BNF Mitterrand à Paris. Et d'ici là, bonne nuit à tous.